Bienvenue au service francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Allez, bonsoir à tous. Nous sommes en direct de Washington avec vous ce soir, Bagassi Koura et Claire Morin-Dubourg. Bonsoir Claire.
Bonsoir Bagassi.
À la une ce soir.
Nouvelle flambée de violence en Centrafrique. Nous entendrons la réaction de Joseph Zoundenko, le chef d'état-major de l'ex-coalition Séléka.
C'est très honteux pour que les musulmans entrent et se battent. Parce que nous avons des problèmes avec les anti-Balaka et les ex-Séléka.
Les groupes armés du Nord Mali sont à Ouagadougou afin de tenter d'harmoniser leur position avant la reprise des négociations avec le gouvernement malien.
Au Nigeria, des centaines de soldats ont fui les violences de Boko Haram pour se réfugier au Cameroun.
Si les militaires finissent par avoir peur, c'est qu'on est vraiment mal parti.
On est vraiment mal parti. Commentaire à suivre à l'international. Gaza respire. Un nouveau cessez-le-feu illimité a été signé entre Israël et le Hamas.
Importante rencontre entre les présidents russes et ukrainiens au Biélorusse, mais sur le terrain, la tension demeure.
Et puis on n'oublie pas les sports en fin d'émission avec Nicolas Pino, mais tout d'abord le journal.
En Centrafrique, nouvelle flambée de violence donc à Bambari dans le centre-est du pays. De violents affrontements ont opposé hier et aujourd'hui deux factions rivales d'ex-Séléka. Au moins une vingtaine de combattants auraient péri dans les combats et plusieurs autres sont blessés. Le point avec Félix Yepassis Zembrou.
Les affrontements ont baissé d'intensité, mais la tension était encore vive jusqu'en début de soirée. Les heurts ont opposé lundi et mardi les hommes du général Joseph Zoundenko, l'actuel chef militaire de Séléka, aux combattants peuls du général Ali Naras. Tout serait parti d'une mésentente entre les deux groupes rivaux au sujet des barrières illégalement installées dans la ville. Hamat Nejad Ibrahim, porte-parole de l'état-major des ex-Séléka, a parlé de 17 morts dans le camp du général Zoundenko et d'un mort, trois blessés dans celui d'Ali Naras. Un bilan rejeté par l'état-major qui dit qu'il n'y a eu ni vainqueur ni de vaincu. Selon des sources locales, une vingtaine d'ex-rebelles auraient été tués et plusieurs autres blessés. Pendant ce temps à Bangui, c'est la scission au sein des anti-Balaka. Sébastien Wenezui, coordinateur adjoint suspendu, a annoncé aujourd'hui la relance des activités du Mouvement patriotique pour l'avenir, MPA, qui, selon lui, est à l'origine des anti-Balaka.
C'est un mouvement qui est dans le mouvement anti-Balaka. Dans des laps de temps, nous allons faire encore une assemblée générale où on va désigner un bureau. Donc on a besoin aussi même la communauté musulmane de venir dans ce mouvement pour qu'ensemble nous puissions aller de village en village, parler aux belligérants, parler aux chrétiens, parler aux musulmans, de s'accepter et de vivre comme avant.
Rappelons que Sébastien Wenezui a été suspendu des anti-Balaka en raison de son récent déplacement à Brazzaville avec une partie des forces vives de la nation.
Trois membres d'équipage d'un hélicoptère de la MINUSSO, la mission de l'ONU au Soudan du Sud, ont été tués. Leur appareil s'est écrasé dans le nord du pays. Selon la MINUSSO, la mission onusienne a indiqué avoir ouvert une enquête pour déterminer les causes de la chute de l'hélicoptère qui s'est abîmé dans une zone où des combats sont régulièrement signalés.
Enfin, macabre découverte au Burundi, plusieurs cadavres, certains ligotés ou dans des sacs, ont été récemment découverts flottant dans la partie burundaise du lac Ruru, qui sépare le Rwanda et le Burundi. C'est ce qu'ont annoncé les autorités de Bujumbura, citées par l'AFP. Des pêcheurs de la commune burundaise de Gitarangui ont dit avoir aperçu une quarantaine de corps flottant sur le lac depuis début juillet, selon le président de leur association, cité par l'AFP. Kigali a démenti ce matin que ces corps proviennent du Rwanda.
Le MNLA et les autres mouvements politico-militaires du Nord Mali sont en conclave depuis ce matin à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ils veulent harmoniser leur position avant la reprise des négociations d'Alger suspendues il y a plusieurs semaines. Sur les objectifs de la rencontre, on écoute Ibrahim Ag Mohamed Assalé. Il est président de la coalition du peuple pour l'Azawad.
L'objectif de cette rencontre de Ouagadougou, c'est de mettre en place une coordination commune de tous les mouvements de la l'Azawad pour préparer éventuellement les négociations avec le gouvernement malien qui sont prévues pour le 1er septembre à Alger. Et aller au-delà de ça dans le cadre de la cohésion sociale entre les différentes communautés ici de la Zawad qui ont été affectées par ce conflit.
Et il semble que vous voulez avoir un statut politique pour la Zawad.
Oui, tout à fait. Ça, c'est la revendication légitime du peuple de la Zawad qui date depuis 1960 jusqu'à nos jours. Ce qui doit être négocié, on espère, prochainement à Alger.
Donc à Alger, vous aurez les mêmes représentants pour tous les groupes du Nord.
Tout à fait, c'est ça l'objectif de notre rencontre, qu'on ait les mêmes représentants pour tous les mouvements politico-militaires de la Zawad.
Est-ce qu'il y a une raison qui peut expliquer pourquoi vous êtes à Ouagadougou et non pas à Alger?
Écoutez, je pense que Ouagadougou a été le propulseur du processus de négociation entre nous et Bamako depuis l'accord de Ouagadougou du 18 juin 2013. Pour nous, Ouagadougou reste toujours le médiateur désigné par la CEDEAO. Voilà, donc on ne voit pas pourquoi nous ne faisons pas cette rencontre ici à Ouagadougou.
C'était Ibrahim Ag Mohamed Assalé, président de la coalition du peuple pour la Zawad.
L'Égypte et les Émirats arabes unis sont soupçonnés d'avoir mené des raids aériens contre les positions d'une milice islamiste dans la capitale libyenne. C'est ce que rapporte le New York Times en citant des responsables américains. Jacques Aristide.
Washington a été pris de court par ces bombardements, d'après le quotidien américain qui ajoute que l'administration Obama n'a pas été consultée au préalable au sujet de ces attaques aériennes perpétrées à Tripoli durant la semaine écoulée. Le Caire a nié avoir mené des frappes ou toute autre opération militaire en Libye. Les Émirats arabes unis, de leur côté, n'ont pour le moment fait aucun commentaire. Toutefois, les responsables américains à qui le New York Times a parlé maintiennent que l'Égypte a bien mis à disposition ses bases aériennes alors que les Émirats ont fourni les avions, les pilotes et le ravitaillement en vol. Dans un communiqué commun, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Italie ont mis en garde contre les ingérences étrangères qui exacerbent les divisions et minent la transition démocratique en Libye, déjà confrontée au chaos avec la perspective de la formation d'un gouvernement pro-islamiste, rival de celui exilé dans l'extrême est du pays.
L'aéroport international de Tripoli est sous contrôle des miliciens islamistes de Fajr Libya. Le constat a été fait ce mardi par un photographe de l'AFP lors d'une visite organisée pour la presse dans cette installation stratégique du sud de la capitale. Aucune activité militaire n'a été signalée dans le secteur lors de la visite organisée par le service de presse des miliciens islamistes. Ceux-ci ont annoncé avoir pris l'aéroport à l'issue de 10 jours de violents combats avec des miliciens nationalistes de Zenten dans l'ouest de Tripoli qui tenaient cette installation depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011.
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a limogé son conseiller spécial Abdelaziz Belrahem, selon une source à la présidence citée par l'agence APS. Ancien président de l'Assemblée nationale et ancien patron du FLM, Belrahem a aussi exercé sous la présidence de Bouteflika les fonctions de Premier ministre et de ministre des Affaires étrangères. Il a été par ailleurs demandé au secrétaire général du FLN, le Front de Libération Nationale, de mettre fin aux fonctions de M. Belkadem au sein du parti, selon la même source. Aucune explication n'a été immédiatement fournie à cette décision brutale et inédite.
Oui, c'est ce qu'on appelle un vrai rêve brisé. Les 20 ministres du Malawi rêvaient en effet de voir leur salaire augmenter de près de 600%. C'est une demande immorale, a tranché le président. Les ministres qui sont actuellement payés environ 1 500 $ par mois souhaitaient obtenir 8 800 $ mensuels. Ils ont justifié leur demande par une hausse du coût de la vie. En comparaison, les 170 000 fonctionnaires de ce pays gagnent en moyenne $100 par mois.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 18h39, temps universel, l'actualité dans le reste du monde. Crise au Proche-Orient, nouveau cessez-le-feu illimité à Gaza entre Israël et le Hamas. Un accord qui intervient après 50 jours de combats dans l'enclave palestinienne le long de la Méditerranée. Un haut responsable du mouvement islamiste a déclaré que la longue trêve mettrait fin au blocus israélien et égyptien de Gaza et prendra en compte d'autres exigences palestiniennes lors de négociations dans les prochaines semaines. Des milliers de Palestiniens célébraient dans les rues de Gaza l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Ce conflit de 50 jours a fait plus de 2130 morts dans l'enclave palestinienne selon l'AFP.
L'armée de l'air syrienne a effectué des dizaines de raids visant des positions des djihadistes de l'État islamique dans la province d'Er Ezor, dans l'est du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces raids ont fait au moins 7 morts parmi les civils et tué des combattants de l'EI sans qu'il soit possible d'en préciser le nombre. Pendant ce temps, selon un haut responsable de la Maison-Blanche, le président Barack Obama aurait autorisé des vols de surveillance au-dessus de la Syrie en prévision d'éventuelles frappes. Le fonctionnaire a déclaré lundi soir qu'Obama n'a pas approuvé d'action militaire pour le moment.
L'aviation irakienne a pilonné les djihadistes qui assiègent depuis plus de 2 mois la ville turcomane chiite d'Amerli, au nord de Bagdad, dont les habitants manquent d'eau, de vivres et risquent d'être massacrés. C'est ce que rapporte l'AFP, citant un colonel. Au total, 9 raids aériens ont visé le groupe ultra-radical de l'État islamique, selon le colonel Mustafa al-Bayati.
En Belarus, poignée de main importante ce mardi à Minsk, les présidents russes et ukrainiens se sont serrés la main avant une réunion cruciale avec l'Union européenne. Sur le terrain, Kiev affirme pour la première fois avoir capturé des soldats russes. Nicolas Pineau.
N'hésitant pas à lancer devant la presse que le sort du monde et de l'Europe se décide au cours de cette rencontre, Petro Poroshenko s'est dit disposé à discuter de toutes les options qui permettraient de mettre fin aux violences. Seule condition préalable à ses yeux, le renforcement des contrôles à la frontière russo-ukrainienne et la fin des livraisons d'armes aux rebelles séparatistes par Moscou. Son homologue russe, Vladimir Poutine, lui a répété que le conflit ne peut être résolu à travers une poursuite de l'escalade militaire sans prendre en compte les intérêts vitaux des régions du sud-est de l'Ukraine. La situation militaire et diplomatique est telle qu'une sortie de crise durable est peu probable à l'issue de ce sommet. La preuve, quelques heures avant la rencontre, Kiev a diffusé des interrogatoires filmés de soldats russes comme la première preuve matérielle de l'implication de Moscou dans le conflit. Arrêtés lundi soir à une vingtaine de kilomètres de la frontière, les 10 parachutistes appartiendraient au 331e régiment de la 98e division aéroportée basée en Russie. Autre tension supplémentaire, Moscou affirme vouloir envoyer dès cette semaine un nouveau convoi humanitaire, quelques jours seulement après l'entrée en territoire ukrainien d'un premier convoi sans l'autorisation de Kiev.
En France, le président François Hollande a présenté un gouvernement dont sont absents les principaux représentants de l'aile gauche socialiste. Le ministre de l'économie Arnaud Montebourg a été remplacé par un ancien banquier d'affaires, Emmanuel Macron. 12 des 16 ministres sont maintenus dans leurs fonctions. On note le départ des principaux représentants de l'aile gauche socialiste, partisans d'une politique plus sociale.
En Afghanistan, un geste qui risque de compliquer le processus politique. Abdullah Abdullah, candidat au second tour de la présidentielle de juin, menace de se retirer du processus d'audit des votes supervisés par les Nations Unies. Un important membre de sa campagne a déclaré aux journalistes ce mardi que les auditeurs n'ont pas la volonté de supprimer des votes qualifiés par son équipe de frauduleuses. Le même cadre de sa campagne annonce qu'Abdullah va se retirer demain matin, heure locale, si leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte.
Voilà pour le journal au micro, Claire Morin-Gibourg et Bagassi Koura en direct de Washington. On passe à la partie magazine de cette émission.
Au Nigeria, les islamistes de Boko Haram poursuivent leur offensive dans le nord-est de ce pays, où ils occupent plusieurs localités, notamment la ville de Gouza dans l'état de Borno, qui selon eux fait désormais partie d'un califat islamique. Incapable de faire face à cette violente campagne, de plus en plus de soldats nigériens franchissent la frontière. Ils étaient plus de 500 à s'être récemment réfugiés au Cameroun voisin avant d'être reconduits à leur frontière. Qu'est-ce que cela signifie pour la lutte contre Boko Haram? Timothée Donangmaï a rejoint le professeur Tundonu Amosu. Il est ancien vice-recteur de l'université de Lagos.
Beaucoup d'incrédulité, les gens n'en reviennent pas, parce que d'aujourd'hui, où on a affaire à des militaires qui doivent quand même se battre comme des militaires, ou alors c'est tout simplement des gens qui n'ont pas compris le sens de cet effort que nous menons contre le Boko Haram, mais si les militaires finissent par avoir peur, c'est qu'on est vraiment mal parti. Et du moins, d'après ce que certains nous disaient ce matin, ou on nous cache la vérité, ou alors il se passe des choses là-bas qui sont vraiment étonnantes. Toujours dire que de toute façon, si les militaires n'arrivent pas à combattre les Boko Haram, on se demande qui serait encore en mesure de le faire.
Du côté du ministère nigérien de la Défense, on dit que ces informations ne sont pas vraies.
Bon, faut voir, on ne sait pas exactement à qui se fier dans ce genre de situation. Vous savez, la vérité, évidemment, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher peut-être du côté des Camerounais qui pourraient nous dire exactement dans quelles conditions les militaires nigérians ont pu traverser la frontière. Parce que nous, ce qu'on a lu dans les journaux ce matin, c'est que c'est des militaires qui se sont égarés en poursuivant les Boko Haram. Franchement, on ne sait même plus à quoi s'en tenir.
Il y avait tout de même une grogne au sein de l'armée nigériane avec certains soldats qui disaient qu'ils ne sont pas suffisamment armés contre Boko Haram.
Et effectivement, et je crois que c'est à l'origine, c'est un peu ce qui explique cela, comme on dit. Parce que de toute façon, si les militaires ne sont pas bien armés, si les épouses des militaires ont à un certain moment empêché leur mari d'aller se battre, justement parce qu'elles disent qu'ils ne sont pas suffisamment armés, alors on pourrait bien comprendre ce genre de comportement de la part de nos militaires.
Le président Goodluck Jonathan a instauré l'état d'urgence dans la région concernée, a envoyé des renforts militaires, tout cela sans succès apparemment. Est-ce que la guerre contre Boko Haram est perdue?
La guerre contre Boko Haram, je crois qu'il va falloir prendre des mesures beaucoup plus énergiques et mettre le paquet. Sinon, cela va donner à ces Boko Haram l'idée qu'ils sont capables de tout. On n'est pas au Moyen-Orient, on est encore au Nigeria où, quand même, jusqu'ici, toutes les activités de ces énergumènes cantonnées quelque part au nord-est du pays. Mais à partir du moment où ils se croient tout permis, moi, je ne vois pas pourquoi ils vont pas descendre en grand nombre sur le reste du pays.
Le professeur Tundonu Amusu, ancien vice-recteur de l'Université de Lagos.
En République centrafricaine, au moins 25 combattants ont été tués hier lundi dans des affrontements entre deux factions rivales de l'ex-rébellion Seleka à Bambari, dans le centre de la Centrafrique. Les violences se sont poursuivies aujourd'hui, selon une source au sein de la force africaine MISCA, citée par l'AFP. Les combats mettent aux prises le groupe du général Joseph Zoundenko, chef d'état-major de l'ex-coalition Seleka installée à Bambari, et celui du général Ali Jaras, comprenant des peuples armée. Tous ces groupes circulent dans la région, a ajouté le même officier. Justement, Idriss Fall a joint le général Joseph Zoundenko à Bambari.
On est venu ici, on a fait 3 mois, il y a une monopole de barrière là, par le général Ali Darata, les peuples là qui sont sous la barrière. Les grandes régions ont décidé d'aller effectuer le relève. Malheureusement, ils n'ont pas tombé d'accord, il y a eu discussion là entre eux, entre les hommes là-bas. Les imams sont venus me voir pour des solutions. Et on est tombé d'accord que vraiment, les imams la rendent là-bas aux barrières, qu'ils ramènent tout ce monde qui se trouve là-bas, ceux du général Ali Darassa et ceux du Pomzon. Comme ça, le problème sera résolu et on va ramener d'autres personnes neutres. Malheureusement, c'est une grande surprise là. Ali Darassa et son jury directement et ils sont venus attaquer les hommes qui sont dans leur base.
Maintenant, est-ce qu'on a une idée de bilan?
Oui, si on parle d'une vingtaine de personnes, ce sera possible. Mais pour l'instant, on n'a pas le bilan exact. Mais je vais vous dire de ma côté, j'ai eu 3 morts et peut-être 7 personnes blessées qui se trouvent à l'hôpital.
Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et Ali Jaras? Est-ce que c'est un membre de la Seleka? Est-ce que c'est un musulman? Qu'est-ce qui fait la différence?
Il n'y a pas la différence entre moi et Ali Darassa, entre Ali Darassa et moi. Nous sommes tous des musulmans et il est sous mes commandements. Il est le sous-chef d'état-major chargé des opérations. Donc, nous sommes tous dans les chaînes de commandement de l'ex-Seleka, la force républicaine.
Donc, si les Seleka se tirent entre eux, c'est très mauvais pour la Centrafrique. Donc, même au sein de l'état-major, il n'y a pas d'unité alors?
Ça, c'est très honteux pour que les musulmans entrent et se battent. Parce que nous avons des problèmes avec les anti-Balaka et les ex-Seleka. Et c'est très honteux que vraiment aujourd'hui, les ex-Seleka du musulman se battent entre eux.
Ce sont les ex-Seleka aussi qui ont rejeté le gouvernement de Mohamed Kamoun et vous vous battez entre vous, qui lui aussi est musulman.
Bon, mais si lui, il est musulman, bien sûr, mais il n'est pas de l'ex-Seleka. Donc il ne connaît pas la souci de tous les éléments de l'ex-Seleka.
Le général Joseph Zoundenko, chef d'état-major de l'ex-coalition Seleka, joint à Bambari. La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Direction le Mali à présent, où il subsiste beaucoup d'inquiétudes au sujet de la saison agricole 2014-2015 en raison de l'irrégularité de la pluie sur l'ensemble du territoire national. Face à cette situation, les agriculteurs et les producteurs sont en train de changer de fusil d'épaule en préparant la contre-saison. Ils mettent l'accent sur les cultures vivrières tout en se basant sur les retenues d'eau, des pratiques qui doivent aider les paysans maliens à surmonter le manque de pluie. Le ministre du Développement rural, lui, continue de sillonner les zones de culture et il espère que cette saison agricole puisse être sauvée. Mais dans les zones comme l'Office du Niger, dans les périmètres aménagés et aux alentours des cours d'eau, l'irrégularité de la pluie n'est pas un souci. Kassim Traoré est notre correspondant à Bamako.
Depuis le début de la saison hivernale, saison agricole au Mali, car cette activité est tributaire de la pluie. La pluie se fait rare, d'où l'inquiétude chez les paysans. Dans la zone Office du Niger, zone de culture du riz par excellence, l'absence de pluie n'est pas un souci. Ilia Sougouro, président directeur général de l'Office du Niger.
Pour ce qui est de l'Office du Niger pour la campagne 2014-2015, l'Office du Niger envisage d'enlever 110 000 hectares pour une production de 693 000 tonnes de paddy. Prévoyant également des surfaces maraîchères, disons, de près de 17 000 hectares, des superficies de riz, des superficies de maïs de 720 hectares et des superficies de mille sorgho de 2500 hectares. Nous prévoyons une production totale, disons, de 771 000 tonnes de paddy.
Dans la région de Kouloukoro, la saison avait bien démarré. Mais de nos jours, les paysans voient deux fois la pluie dans la semaine.
Globalement, nous sommes à 884 000 hectares réalisés. Et l'aspect des cultures, vraiment, en cette période, est bon dans l'ensemble.
Les paysans, aujourd'hui, se transforment en paysans professionnels. Cette professionnalisation amène à faire beaucoup de superficies, à appliquer les techniques qu'il faut pour que les rendements puissent être augmentés et assurer vraiment notre suffisance alimentaire.
Contrairement à la région de Kaye, c'est le fait même que la saison a accusé du retard. À cela, il faut ajouter la rareté des pluies. Les paysans ont jeté leur dévolu sur les retenues d'eau pour tenter de sauver la saison.
La campagne est à deux niveaux chez nous. Sur la partie nord, les labours semis viennent de commencer, tandis que dans la partie sud, c'est en pleine végétation.
Le volume, la pluviométrie vraiment cette année, si on voit même les cours d'eau, il n'y a même pas d'eau dans les cours d'eau. Alors que certaines localités, leur force, c'est à partir des décrues.
En faisant le tour des différentes zones agricoles du Mali, le ministre du Développement rural ne désespère point. C'est pourquoi il mise sur les cultures dans les périmètres aménagés. Bokari Treta.
Je voudrais bien espérer que les producteurs vont pouvoir exploiter ces périmètres pour la campagne, au moins sur la contre-saison 2015-2016 et la véritable saison 2016-2017. Nous sommes en train de nous investir pour que du niveau national, où non seulement cette vision est partagée et mise en œuvre, vraiment donc nous voulons trouver son reflet au niveau régional.
Face à cette situation, les paysans, agriculteurs et producteurs sont en train d'échanger le fusil d'épaule en préparant la contre-saison tout en se basant sur les retenues d'eau. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Voilà, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. C'est l'heure des sports un peu plus tôt aujourd'hui avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagessi.
Et en football, on continue de parler de cette affaire d'Albert Ebossé. Les premières sanctions sont tombées suite donc à son décès en Algérie le week-end dernier.
Oui, la JS Kabylie hein, ne pourra pas jouer dans son stade du 1er novembre à Tizi Ouzou jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'annonce la Confédération africaine de football. La sanction a été arrêtée après une réunion entre la Fédération algérienne de football et la Ligue professionnelle de la nation nord-africaine.
Et cette tragédie, hein, il faut le dire, a incité la Fédération malienne à demander le report de sa rencontre avec l'Algérie.
Pour des raisons sécuritaires, Bamako a demandé à la CAF une délocalisation de la rencontre Algérie-Mali prévue le 10 septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015.
Il faut dire qu'il va y avoir beaucoup de rencontres qui vont être délocalisées, hein, c'est à ce rythme avec l'Ebola, le Congo qui ne veut pas jouer au Nigeria, la Côte d'Ivoire qui ne veut pas jouer en Côte d'Ivoire et voilà quoi. Autre report dans cette course de la CAN, cette fois pour cause d'Ebola.
Et vous l'évoquiez, par mesure de précaution, la Fédération ivoirienne de football a annoncé que la rencontre Côte d'Ivoire Sierra Leone n'aurait pas lieu comme prévu à Abidjan le 6 septembre.
Et la CAN 2017, hein, ce n'est pas demain, mais le Ghana y pense déjà.
Oui, suite au désistement de la Ligue. Le Ghana, déjà pays organisateur de l'édition 2008, a officiellement fait acte de candidature pour accueillir cette CAN 2017.
Et c'est une candidature à prendre au...
C'est une candidature à prendre au sérieux parce que le Ghana, il a déjà 4 stades. Accra, Kumasi, Sekondi Takoradi et Tamale.
Voilà, transfert en Europe.
Oui, on va parler de Manchester United, hein, qui a cassé la tirelire officiellement ce mardi, l'arrivée d'Angel Di Maria pour une somme record outre-Manche, 75 millions d'euros. L'international argentin quitte donc le Real de Madrid, il s'est engagé pour 5 ans avec les Red Devils. Et puis Claire, on va vous donner 2 autres transferts, hein, en Europe, notamment un Ivoirien qui a prolongé son contrat à Bastia.
Donc vous voulez parler évidemment du défenseur de Bastia, Ndri Romaric, qui a prolongé son contrat d'un an avec le club corse. L'Ivoirien, âgé de 31 ans, dispute sa seconde saison avec le club bastiais. Le stade rennais, lui, a fait signer le défenseur central sénégalais Fallou Diagne pour 3 ans.
Tout à fait.
Et enfin, les barrages de retour en Ligue des Champions.
Et décidément, je suis devenue la spécialiste du football dans cette bonne humeur ici. Le Standard de Liège, éliminé par le Zénith de Saint-Pétersbourg. Une défaite 3-0.
Voilà, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. C'est tout pour le sport.
Well, me and my lady had our first big fight, so I drove around till I saw the neon lights of a corner bar, and it just seemed right, so I pulled up. Not a soul around but the old barkeep down at the end and looking half asleep. But he walked up and said, what'll it be? I said, the good stuff. He didn't reach around for the whiskey. He didn't pour me a beer. His blue eyes kinda went misty. He said, you can't find that here. 'Cause it's the first long kiss on a second date.
Et une petite pause musicale avec Kenny Chesney et pour le morceau de Good Stuff.
So much. And it's the way that she looks with her eyes and her hair. Eating burnt suppers the whole first year and asking for seconds to keep her from tearing up. Yeah, man, that's the good stuff. He grabbed a carton of milk and he poured a glass. And I smiled and said, I'll have some of that. We sat there and talked as an hour passed like old friends. Saw a black and white picture and it caught my stare. It was a pretty girl with bouffant hair. He said, that's my bonnet, taken about a year after we wed. He said, I spent 5 years in the bottle when the cancer took her from me. But I've been sober 3 years now, 'cause the one thing stronger than the whiskey was the sight of her holding our baby girl. The way she adored that string of pearls I gave her the day that our youngest boy Earl married his high school love. And it's a new t-shirt saying I'm a grandpa, been right there as our time got small, and holding her hand when the good Lord called her up. Yeah, man, that's the good stuff.
C'est donc sur ces notes que s'achève Le Monde aujourd'hui que vous a proposé La Voix de l'Amérique.
Michel Joseph était à la réalisation, Bill Barber à la console. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui nous a aidé à préparer cette édition. C'était Claire Morin-Gibourg et Bagassi Koura dans la capitale américaine. Merci de votre fidélité et passez une excellente soirée.